VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Gambie, les forces de sécurité gambiennes ont fermé 3 stations de radio privées installées près de Banjul, la capitale. Le président sortant, Yahya Jammeh, continue de refuser de reconnaître sa défaite face à l'opposant Adama Barrow à l'élection présidentielle du 1er décembre et il réclame avec insistance la tenue d'un nouveau scrutin. Dans son discours du Nouvel An, Yahya Jammeh a accusé la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, de lui avoir fait une déclaration de guerre en disant qu'elle usera de tous les moyens pour le faire partir du pouvoir. Que signifie cette tension pour le Sénégal, pays dans lequel est enclavée la Gambie et qui joue un rôle clé dans la recherche d'une solution à la crise gambienne? La correspondante de La Voix de l'Amérique sur place, Rissi Chajouak, a posé la question à Mathias Nkumpé, administrateur du programme gouvernance politique à l'ONG Osiwa à Dakar.
Yahya Jammeh militairement n'a pas les moyens de s'attaquer au Sénégal et en plus le Sénégal dans la recherche de solutions à la crise en Gambie n'est pas seul. Je crois que la plupart des pays de la CEDEAO seront aux côtés du Sénégal, y compris la communauté internationale. Et donc de ce point de vue, je ne crois pas que ce soit une option pour la Gambie de s'attaquer au Sénégal militairement. Alors en ce qui concerne maintenant l'implication de tout ceci pour la Casamance, pour le Sénégal, de mon point de vue, c'est mieux pour le Sénégal s'il n'y a pas d'instabilité en Gambie. Parce que l'instabilité en Gambie pourrait offrir une sorte de marge de manœuvre plus élargie aux rebelles de la Casamance, un espace d'aller et venir qui peut les aider à mieux s'organiser et continuer des actions de rébellion contre le Sénégal. Mais dans le même temps, je crois qu'il faut tenir compte du fait que les rebelles casamançais ne sont pas là simplement à la disposition de Jammeh et qu'il peut faire d'eux ce qu'il veut.
Mathias Nkumpé, administrateur du programme gouvernance politique à l'ONG Osiwa à Dakar, au Sénégal. En RDC, l'accord du 31 décembre négocié in extremis entre la majeure partie de l'opposition et la mouvance présidentielle en danger, selon plusieurs observateurs. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a soulevé hier un sérieux problème d'inclusivité et certaines forces de l'opposition comme le MLC, le Mouvement de Libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, n'ont pas souscrit à cet accord. Henri Désiré Nzouzi, consultant diplomatique, interpelle la majorité présidentielle sur sa responsabilité dans la réussite de l'accord.
Quand on lit attentivement cet accord, il est plutôt favorable à Joseph Kabila puisqu'il garde les 26 provinces, la CENCO n'est pas restructurée de manière profonde comme cela avait été demandé, la présidence n'est pas protocolaire, que du contraire, elle est plutôt effective. Il y a quand même, on peut le dire, hein, sur le papier, des motifs de satisfaction pour Joseph Kabila. Mais là, vraiment, on ne comprend pas. J'ose espérer, pour ma part, qu'il ne s'agit que d'un ballon d'essai destiné à tester la réaction peut-être du rassemblement. En tout cas, pour le moment, le rassemblement ne réagit pas de manière, je dirais, officielle et c'est plutôt bon signe pour bien montrer qu'elle est consciente de la gravité de la situation et que c'est un moment important pour les Congolais. Il faut simplement espérer que le camp présidentiel se ressaisira.
Henri Désiré Nzouzi à Bruxelles, en Belgique. RDC toujours, un opposant congolais accusé d'avoir insulté le président Joseph Kabila doit comparaître jeudi au parquet de Lubumbashi, 10 jours après la levée de son immunité parlementaire. Les détails avec Michel Joseph.
Gabriel Kyungu Wakumwanza, président de l'UNAFEC et coordinateur du rassemblement de l'opposition dans le sud-est de la RDC, est accusé d'avoir insulté le président Joseph Kabila dans un enregistrement jamais rendu public et dont il conteste l'existence. Proche de l'opposant en exil, Moïse Katumbi, M. Kyungu a été gouverneur et président de l'Assemblée provinciale du Grand Katanga. Son parti est également membre du G7, groupe de 7 partis, passé de la majorité à l'opposition en septembre 2015. Fin mars, le G7 avait demandé à M. Katumbi de se présenter à la présidentielle qui devait se tenir avant la fin de l'année. À la suite d'un accord passé entre le pouvoir et l'opposition le 31 décembre, cette élection est programmée fin 2017 et M. Kabila, dont le mandat s'est achevé le 20 décembre, restera au pouvoir en attendant qu'un successeur soit désigné.
Guinée équatoriale, c'est demain mercredi que le tribunal correctionnel de Paris se prononcera sur la requête des avocats de Théodorine Obiang, vice-président et fils du président équato-guinéen, d'un report de son procès pour blanchiment d'abus de biens sociaux et détournement de fonds publics notamment. Au regard de cette affaire, Georges Mpaga, acteur de la société civile au Gabon, dénonce la corruption et le manque de démocratie en Afrique centrale.
Cette opacité résulte d'abord du fait qu'il y a un déficit démocratique en Afrique centrale. La plupart des chefs d'État sont au pouvoir en moyenne depuis 30 ans. Il n'y a pas d'alternance démocratique dans ce pays, à l'exception du Gabon et de la RDC. Les autres pays, vraiment les sociétés civiles, sont extrêmement faibles. Donc c'est le manque de démocratie qui est à l'origine de ce qu'on appelle le syndrome hollandais, avec d'immenses ressources. Les 11 pays d'Afrique centrale ont des ressources immenses, mais les populations sont immensément aussi appauvries. Et paradoxalement aussi, les dirigeants sont extrêmement riches. Finalement, l'émergence d'une véritable démocratie est la seule condition pour vraiment avancer dans la lutte contre la corruption.
Georges Mpaga de la société civile gabonaise.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Cameroun, l'année 2016 s'achève avec un taux de croissance économique de près de 6%. Ce pays qualifié de moteur de l'économie en Afrique centrale compte maintenir ce taux de croissance dans un environnement hostile en raison de la guerre contre le groupe islamiste Boko Haram et la chute du prix du baril de pétrole sur le marché mondial. De Yaoundé, le point avec notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, BEIAC, le taux de croissance en Afrique centrale est moins de 2%. Mais le Cameroun se retrouve avec près de 6% à cause de la diversification de son économie. C'est donc ce taux de croissance, contrairement à celui de 5,7% en 2015, que le Cameroun veut maintenir. Pour y arriver, le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, revient sur les différents axes à prendre en considération.
Nous avons voulu soutenir davantage la croissance de notre pays. Et nous pensons que le secteur privé a besoin d'un accompagnement, d'un appui et des incitations importantes ont été allouées au secteur agricole dans notre pays. Il s'agit d'exonération de la TVA, d'exonération des droits d'enregistrement, d'exonération des frais de mutation, autant de choses qui, à notre avis, vont participer à doper le secteur agricole de notre pays, un secteur qui participe à la croissance, un secteur qui produit suffisamment de ressources en devises. Mais nous voulons également garantir une exécution satisfaisante de ce budget 2017 en veillant à ce que la qualité de la dépense soit une priorité, en veillant à ce que les dépenses fiscales soient maîtrisées et surtout orienter davantage les ressources d'investissement vers la réalisation des projets structurants.
Dans un premier temps, le gouvernement veut maintenir son cap sur les projets miniers et hydroélectriques engagés depuis quelques années. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djomessi, explique les enjeux des projets routiers.
D'abord, quand la route passe, le développement suit. Comme vous le savez, il faut que nous réussissions à relever l'état de service de nos infrastructures routières et que nos routes ne se coupent plus jamais. Vous noterez que dès 2017, nous avons introduit la gestion de nos routes par niveau de service. C'est-à-dire, quand une route est de construction ou de réhabilitation, même récente, il va falloir installer sur cette route une entreprise performante qui part un travail d'anticipation va prévenir les dégradations, qu'elles soient en terre ou alors qu'elles soient bitumées. Maintenant, comment faire pour trouver la bonne entreprise? Et c'est ça la véritable problématique. Trouver la bonne entreprise suppose donc que nous choisissions parmi celles qui sont performantes. Or, il y en a très peu.
Des efforts seront également fournis sur les plans sportifs avec la mise en place des infrastructures en vue de la tenue prochaine de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Par ailleurs, le gouvernement promet une amélioration de la qualité de l'éducation et de la santé. L'année 2017 fera aussi l'objet de la lutte contre le chômage et sous-emploi des jeunes, dans la mesure où le gouvernement annonce des projets visant à réduire le taux de chômage à moins de 16%. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Et pour terminer, au Mozambique, le leader de l'opposition mozambicaine Afonso Dhlakama a annoncé ce mardi une trêve de 2 mois dans le conflit qui oppose la branche armée de son parti, la RENAMO, au gouvernement mozambicain. Un conflit qui a fait plus de 20 000 déplacés et réfugiés. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.